Inonado, lula nero toncar, yupi kairi, no yo palullar, mofino, me dunetun sha, yupi kairi, nericostoña, pude vicriri, kikon li fugeri, tuto los costoño, no garujola.
Il fallait qu'on acquiert de la connaissance, la transmettre, mais en même temps, cette connaissance, elle était aussi, surtout pour éclairer notre propre parcours. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on gagne du temps. La vie, c'est un truc trop court. Donc, si tu ne fais pas appel, si tu n'acquiers pas des connaissances et si tu n'expérimentes pas les concepts que tu manipules, à un moment donné, tu es suspendu dans le vide, quoi. Ça ne marche pas, quoi. Donc, c'était ça. Et puis, rendre hommage à notre histoire, aborder les problèmes d'identité, alors que c'est quasiment tabou, considérer que le réenchantement des territoires était capital, que dans des régions où l'urbanisation va aller croissant, que c'est dommage qu'on n'explore pas les espaces ruraux comme des espaces de recours et complètement adaptés aux énergies renouvelables, etc. Donc tout ça, c'était déjà dans l'air. On a toujours défendu ça, et que l'expression passe avant la virtuosité ou cette espèce de simplement la connaissance de l'objet. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu connais 3000 chansons que tu es un bon chanteur, mais celui qui doit être valorisé, c'est le bon chanteur. Parce que ce qui transmet à l'autre en chantant par le biais de son expression, c'est plus important que l'empilement de répertoire. Et si on considère que la chanson, c'est comme un costard, quand tu la prends, tu la mets dans une penderie, l'objet est mort. Hein ? C'est-à-dire que si la personne qui la chante, la rechante, l'objet est vivant. Mais si toi, tu reprends le costard qui est cette chanson-là, si tu te le mets sur toi, t'es sûr d'être ridicule. Soit c'est trop grand, t'as les manches qui arrivent là, soit les manches t'arrivent là. Soit t'arrives pas à fermer, c'est comme ça. Donc ça veut dire que t'es obligé de prendre la chanson et de la retailler. Mais exactement pour toi. Et que là, l'objet devient unique. Et que t'as beau avoir cette relation affective avec la personne qui te l'a appris, et avoir été très sensible à son expression, c'est à toi de libérer... Le pourquoi la chanson t'a plu et que ton expression elle soit au service de ta seule vision du monde. C'est-à-dire que là, tu es obligé de tuer le vieux, quoi. Et ça, c'est fondamental. On est en devoir de, à partir des éléments les plus forts, de fabriquer des choses qui sont à l'équivalence, si on peut, mais pas obligatoirement à partir du modèle, que de fabriquer ses propres objets, c'est pas bien compliqué, dès l'instant qu'on a pigé les mécanismes. D'autant plus que la fiction est toujours, toujours plus faible que la réalité. Donc, ce qu'on invente, on est toujours en dessous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis, je pense que ce que l'on... pour rester sur la dimension politique au sens large, hein, c'est que les idées qu'on brasse, les rapports qu'on a avec la population, cette forme d'écoute, cette forme de valorisation, de continuité, d'acceptation de ce qu'on est au travers de ce qu'on a appris avec ces gens, fait que c'est cette approche-là qui devait prendre le pouvoir, pour être clair. Et que je pense que c'est sûrement, autant ça a été innovant du point de vue de la musique, les idées qu'on a pu mettre en place sur ce terrain-là, elle le serait d'égale manière sur le terrain politique lui-même. Les musiques traditionnelles, c'est pas qu'une aventure stylistique d'un microcosme qui défend son droit à exister. Non, je pense que nous, on a mis à jour des devoirs plus que des droits. Et que, par les temps qui courent, c'est pas complètement commun, quoi.
Dun 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 d Un pied dans l'eau, l'autre dans la rivière, un pied dans l'eau, l'autre dans le ruisseau.
Un pied dans l'eau, l'autre dans la rivière, un pied dans l'eau, l'autre dans le ruisseau.
Un pied qui va, l'autre qui ne va guère, un pied qui va, l'autre qui ne va pas.
Un pied qui va, l'autre qui ne va guère, un pied qui va, l'autre qui ne va pas.
Un œil tout bleu, l'autre qui vise en l'air, un œil tout gris, l'autre qui vise en bas.
Un œil tout bleu, l'autre qui vise en l'air, un œil tout gris, l'autre qui vise en bas.
Si vous m'aimez, vous n'y penserez guère, si vous m'aimez, vous n'y penserez pas.
Si vous m'aimez, vous n'y penserez guère, si vous m'aimez, vous n'y penserez pas.
Si vous m'aimez, vous l'oublierez bientôt.
Si vous m'aimez, vous n'y penserez guère. Si vous m'aimez, vous l'oublierez bientôt.
Si long qu'il pourrait toucher terre, un bras plus court que le bras d'un manchot.
Un bras si long qu'il pourrait toucher terre, un bras plus court que le bras d'un manchot.
Si vous m'aimez, vous n'y penserez guère, si vous m'aimez, vous l'oublierez bientôt.
Si vous m'aimez, vous n'y penserez guère, si vous m'aimez, vous l'oublierez bientôt.
D'abord, il y a une dimension familiale qui est, à laquelle on ne peut pas échapper. C'est-à-dire que son éducation, elle te colle à la peau, quoi qu'il arrive, et t'es fait de ça. Et ça, c'est déterminant. C'est sûrement la chose la plus importante, d'ailleurs. Alors moi, j'ai une chance inouïe, c'est que dans ma famille, il y a des artistes, et pas les moindres. Il y a d'abord mon père, qui est quand même... dans le genre, j'avoue que, sincèrement, il était très très fort, vraiment très très fort. Et que ça, ça m'a marqué bien plus que tout le reste, d'une certaine manière. Parce qu'il avait, du point de vue de l'expression artistique, c'était quand même un grand. C'était pas un bon technicien, ni au diato, ni au chromatique, il jouait des deux, mais ce qui sortait... Là, vraiment, ça c'était vraiment C'est qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de filtre. Du point de vue de l'émotion, c'était direct, quoi. Et rares sont ces artistes-là, quoi. Donc moi, j'ai eu ça devant moi tout le temps, puisque j'avais la chance d'être dans cette maison-là, quoi. Donc, même si l'animal était excessivement compliqué et très peu présent, mais en même temps, quand tu apprends ça une fois par la tête, c'est réglé pour le restant des jours. Donc je vois très bien où la barre se trouve, du fait que j'ai été confronté à ça, quoi. Et que l'émotion que ça produit, tu ne peux pas oublier. Et que tu sais que c'est là que ça se passe, et que ce n'est pas dans la virtuosité ou la technique. Ça, c'est important, mais ce n'est pas primordial, quoi. Et que les gens des musiques traditionnelles nous ont montré ça en même temps, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas une grande connaissance de l'objet qu'ils manipulent, même s'ils n'ont pas une grande technicité. C'est chose séparée. Alors quand en plus il y a de la technicité, alors là tu tombes par terre. Toujours est-il, la sensation, l'impression que m'a laissé mon père, et du point de vue du jeu d'accordéon, et du point de vue du chant, et surtout du chant, ça a été capital. Je pense que c'est le plus grand chanteur que j'ai rencontré. Parce que j'ai pas d'objectivité par rapport à ça. Complètement, quoi. Alors ça, c'est une chose. Puis je me suis interrogé au début des années 70, du pourquoi je pouvais être sensible à la cabrette, alors que les gens de ma génération jouaient plutôt de la guitare électrique, des choses comme ça. Je me disais, mais quand même, bon, soit j'ai une anomalie j'ai mal été conçu, j'ai un pet au casque qui fait que là, je ne suis pas dans les clous et que, bon, vite que j'ai fait une analyse pour essayer de revoir si je peux repasser la guitare électrique. Et donc, j'ai fait ce boulot d'analyse en écrivant un bouquin sur ce, d'ailleurs, qui est là, tu vois. Ça s'appelle L'accordéon d'une terre silencieuse, il n'est pas publié, le manuscrit est là, et ça répond à cette question. C'est-à-dire, pourquoi je m'intéresse à ça? Et là, c'est en grande partie par rapport à ce qui concerne chaque individu, c'est à une notion, à la notion d'histoire familiale. Et donc, cette notion de déterminisme socioculturel, tu ne peux pas y échapper d'une certaine manière. Alors, soit tu en as conscience ou pas, peu importe, et puis des fois, au mieux ne pas en avoir conscience, ça évite de se poser trop de questions. Mais ma curiosité ne pouvait pas échapper à aller creuser de ce truc-là. Et donc, j'ai creusé ça. Je sais, en gros, d'une part, d'où ça vient, et d'autre part, j'ai construit une raison qui classe le problème. Donc, je sais pourquoi je joue la cabrette. Ça, c'est une chose. Et puis, après, il y a, sur la dimension artistique, ces modèles-là ont été forts. Et la collecte, elle a été en grande partie faite pour combler un certain nombre de trous dans la généalogie qui est la mienne, et que mon arrière-grand-mère qui a été muette à des choses fondamentales dans l'histoire de la famille, j'ai enregistré tellement d'arrière-grand-mère que normalement, par recoupement, je devrais avoir à peu près le discours de mon arrière-grand-mère qui n'a rien dit. Ça règle un certain nombre de problèmes, et ça montre à quel point la dimension, l'expression qui touche à un art quel qu'il soit, est important, et qu'il était tellement important qu'il était indispensable que je ne pouvais pas échapper à ça. Et mon père non plus, mon grand-père, son père à lui non plus, et mon arrière-grand-père non plus. Donc c'est ça, quoi. La première impression, elle est là. Et après, j'ai rencontré des gens en collecte, et je ne pense pas m'être vraiment gouré par rapport à ça, c'est-à-dire que comme j'avais cette référence de qualité artistique, j'avais compris, parce qu'on décode fort bien ça, quoi. C'est-à-dire que le même enfant, on, toutes ces nuances, et dès qu'il y a quelqu'un qui a vraiment une puissance d'évocation très grande, on ne peut pas passer à côté. Hein. Et donc, quand j'ai rencontré Marie-Jeanne Becerro ou d'autres, ou des Perrier, ou des Riols, ou des... Donc là, il n'y a pas photo, quoi. Tu es face à des grands, et que c'est, là, tu as un apprentissage, et que c'est surtout, après les autorisations, Tout le reste, c'est un parcours pour aller vers soi. Quoi. Tu chemines pour aller à ta propre rencontre.
Un jour, je me promène tout le long de la mer. Un jour, je me promène tout le long de la mer. J'ai entendu trois mariniers qui disaient dans leur langage « Ah, qu'ils sont malheureux les gens qui se mettent en ménage !» Pour se mettre en ménage, faut avoir du talent. Pour se mettre en ménage, faut avoir du talent. Il faut nourrir femme et enfant, payer taille et louage. Et je n'en doute pas vraiment, payer l'apprentissage. Le jour de tes grands noces, quelle habit prendras-tu? Le jour de tes grands noces, quelle habit prendras-tu? Et je prendrai un habit noir, l'habit de pénitence, et le chapeau à trois couleurs, la couleur de patience. Le jour de tes grands noces, quel mouchoir prendras-tu? Le jour de tes grands noces, quel mouchoir prendras-tu? Et je prendrai un mouchoir blanc pour essuyer mes larmes. Adieu plaisir, adieu beau temps, aujourd'hui je m'engage. Le jour de tes grands noces, dans quel lit coucheras-tu? Le jour de tes grands noces, dans quel lit coucheras-tu? Je coucherai dans un lit blanc couvert de roses blanches. Les rideaux couleur du rosier, la couleur de patience. Son mari la caresse à grands coups de bâton. Son mari la caresse à grands coups de bâton. Je t'ai bien dit plus de 100 fois que dans le mariage, il fallait prendre le souci, quitter le badinage. De bon matin se lève, son père va trouver. De bon matin se lève, son père va trouver. Ah mon père, qu'avez-vous fait? Vous m'avez fait prendre un homme. La nuit, le jour, au cabaret, toujours il m'abandonne. Prends patience, ma fille, prends patience, toujours, prends patience, ma fille, prends patience, toujours. Il faut l'aimer, le respecter, le servir, le reconnaître. Tant qu'il sera auprès de toi, sera toujours ton maître.
Et sur la dimension musicale me concernant, pour le coup... Là encore, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que en même temps que je crée l'idée de l'AMTA, le rêve d'AMTA, je me disais qu'il fallait que je change de cadre pour faire de la musique. Et j'écoute des dizaines, voire des centaines de disques, c'est des vinyles, et un jour je tombe grâce à un copain qui m'a indiqué cet enregistrement, sur un disque 33 tours de Louis Clavis qui s'appelle Clarinette. Et là, j'ai dit, là d'accord. Là, pourquoi? J'ai écouté ça comme j'aurais écouté un disque de solo de Cabrette de Bouscatel, quoi, tu vois, en gros, quoi. J'ai dit, bon, faut que je vois si on peut faire un truc avec ce mec que je connaissais pas. Hein. J'ai dit, bon, il faut passer à l'acte. Je vais à la poste, parce qu'on n'était pas équipé. Sur les bottins, Lyon, parce que c'était marqué le studio à Lyon. Lyon, Louis Clavis. Louis Clavis, téléphone. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner ce numéro? Elle note, elle le fait, et elle me dit cabine 3. Et donc, je suis dans la cabine 3, je vous le passe, tu vois. Un mec qui répond, c'est lui, coup de bol. Parce que tu ne vas pas à la poste de la Manu, toutes les trompes, tu vois. Mais bon, après j'avais le numéro, j'aurais pu le faire de l'OMTA. Toujours est-il, je l'ai, je lui explique, il me dit ok, rendez-vous dans un mois, t'es à Lyon, chez moi. Je vais à Lande. J'enregistre, je ne sais pas, 40 ou 50 morceaux. Je ressors avec une cassette audio, une cassette. Et le jour, je prends ma bagnole, je file à Lyon. À la Croix-Rousse, toc toc toc. Sclavis ouvre la porte. Bonjour, non. Ça se fait comme ça, là, on discute. Il me dit, je sais pas, ça dure une demi-heure, un peu même. Je lui explique ce que, pourquoi, la carrette. Il me dit, ah, ouais, ok, pourquoi pas. Il dit, écoute, je joue avec un quatuor, donc si tu veux, on a 150 dates par, là, par an, donc j'ai pas le temps de faire les arrangements. Mais s'il y a un gars de chez toi, qui s'appelle Alain Gibert, s'il lui accepte de faire les arrangements, nous, avec le quatuor avec lequel je joue, on fait la musique. Le lendemain, j'étais chez Gibert. Je vois à quoi ça. 87. Et depuis, on ne s'est pas quitté.
Floriccio la vero, l'ore, la vero, l'ore.